Eric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans quel état d'esprit est le manager général de Cofidis, allez, je dirais à cette intersaison, quelques semaines avant la reprise de la saison 2008?
Bon, il est normal, bien. Ouais.
Déjà concentré sur la saison 2008.
Oui, bien sûr, concentré, parce qu'on a déjà... C'était la rentrée des classes pour nous, il y a deux semaines. Voilà, ouais. On a fait un stage à Amiens. Il y avait les 30 coureurs, les 30 membres du personnel, donc 60 personnes qui représentent l'équipe cycliste Cofidis étaient réunies en stage. Un stage important, parce qu'il y a les nouveaux rencontrent les anciens. Tout le monde touche son nouveau pactage, son nouveau vélo... Vraiment, tout à fait. Il faut faire les photos individuelles. Enfin, c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un stage d'entraînement. C'est un stage administratif. Il passe aussi chacun au CHU d'Amiens pour les tests médicaux. Il y a le test psychologique aussi, donc chacun devant le psychologue. Enfin, il y a 1000 choses à faire. Et on reprend demain à Montpellier pour là un vrai stage d'entraînement.
D'accord. Alors, l'équipe Cofidis version de 2008. Alors, déjà, ça tombe bien. On avait pris donc rendez-vous. Il y a une bonne nouvelle, c'est que vous allez être prolongé jusqu'en 2009.
Ah oui, c'est vrai.
On a pris rendez-vous et puis hop, la nouvelle est tombée donc cette semaine, 2009.
Officiellement, elle est tombée en effet. On a envoyé un communiqué de presse cette semaine pour informer tous nos supporters que nous serons encore dans le peloton en 2009 et que nous réfléchissons pour...
Après
ça, oui, tout à fait, pour la suite à donner à l'investissement de Cofidis dans le cyclisme. Parce qu'en 2009, ça fera quand même 13 ans que Cofidis est venu partager les joies et les peines du cyclisme.
Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que finalement, tout ce qui s'est passé sur le vélo, tous les problèmes qu'il y a eu, les sponsors ne se retirent pas, au contraire
les problèmes, ils ne datent pas d'hier, mais effectivement, ils ont été mis sur la place public depuis 10 ans, depuis 98. Et il faut savoir que les dirigeants du cyclisme et les sponsors majeurs du cyclisme sont là pour d'abord lutter contre le dopage. On se fait taper dessus depuis 10 ans. Parce qu'en effet, il y avait des dirigeants mal intentionnés, des coureurs cyclistes qui n'avaient pas de morale, aucune éthique.
Et pratique. Ou dans l'habitude, dans un système.
Peut-être sûrement aussi, mais si on analyse le dopage, chaque cas est individuel en fait. Effectivement, il n'y a pas globalement, c'est très difficile. Mais en tout cas, quand même, le ménage a été fait et il continue d'être fait, le ménage. Le dernier en date, c'est Vinokourov. Donc si on attrape un coureur, les contrôles sont de plus en plus efficaces et il est tout de suite exclu. D'ailleurs, il a mis un terme à sa carrière. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, aujourd'hui, plutôt que de nous taper dessus, aidez-nous, parce que nous sommes là pour lutter contre le dopage. Ouais, nous ne sommes pas là pour cautionner, cacher, quoi que ce soit. Je veux dire, moi, je suis responsable de 30 individus. 30. C'est-à-dire que si dans 10 ans, j'ai l'enfant d'un des coureurs, la femme, les parents qui viennent me voir et me disent mon père, si c'est l'enfant, est malade, parce qu'il y a 10 ans il a eu telle pratique que vous saviez, que vous aviez cautionné en ne disant rien, je ne le vivrai pas. Donc j'ai aussi deux enfants, c'est pas mes valeurs. Moi je suis là pour faire du sport, je suis là pour... accompagner les athlètes avec l'expérience que j'ai depuis 20 ans pour leur donner les meilleurs outils pour pratiquer la plus belle carrière qui soit, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et c'est tout.
C'est pour ça que nous, on était un peu contre les journalistes qui se sont retirés du Tour de France. Il faut en parler, il faut continuer à en parler, parce qu'en plus, le vélo est précurseur, quoi. C'est-à-dire que dans 15 ans, le vélo pourra dire on a été les premiers à faire un ménage.
On tape sur ce sport, mais on a été les premiers en tout. On a été les premiers à faire les contrôles antidopage dans les années 60. Donc à partir du moment où on fait les contrôles antidopage sur des coureurs cyclistes, sur des sportifs, eh ben, évidemment, on trouve des positifs. Si on ne fait pas de contrôle, on trouve rien. Pas de contrôle dans le football, pas de contrôle en athlétisme, pas de contrôle nul dans le tennis, nulle part. Il n'y a pas de contrôle, comment voulez-vous qu'il y ait des positifs?
Non, c'est sûr. Donc, c'est l'image de marque qui va. Bon, quelque part, pour un jeune aussi, on dit que le vélo ne fait plus rêver. Est-ce que les parents, ça leur fait pas un peu peur aussi?
Bah, les parents, évidemment, ils discutent avec les dirigeants des clubs, en effet, et je pense que chaque club, quand même, travaille avec des dirigeants qui aiment ce sport et qui ont envie, eux aussi, de le voir sortir de tous ces problèmes-là. Donc, je pense que les parents sont suffisamment avertis maintenant des dangers du dopage pour voir si dans le club local tout va bien, et puis au fond aussi rencontrer le médecin de famille déjà qui peut vérifier, contrôler de temps en temps, régulièrement je dirais, si tout va bien chez un enfant qui pratique ce sport. Non, il y a des tas de possibilités pour se protéger et donc du dopage bien entendu, et puis pour pratiquer ce sport correctement bien sûr.
Alors je vous ai souvent entendu dire ces derniers temps que le vélo ne faisait plus rêver un jeune.
Oui, il a effectivement, il y a dans certaines régions de France qui sont fortement industrialisées des difficultés à faire du vélo parce que ça se passe sur les routes. Le terrain de sport, c'est les routes. Ouais, c'est cher, les routes, elles sont ouvertes à toute la circulation. Il y a effectivement des obstacles naturels liés au danger de la route. Donc c'est vrai que c'est difficile pour un jeune de faire du vélo. Parce que ça coûte cher, ça devient dangereux, etc. Et puis c'est vrai que si on ne parle que de dopage, bon, en effet, ça fait pas rêver quand on compare ce sport à d'autres sports, en effet, qui sont beaucoup plus confortables, plus faciles d'accès. Pour aller sur les compétitions, ça coûte cher. Il faut que la famille emmène l'enfant en voiture. Ça, on va à droite, on va à gauche, on va loin. Non, c'est vrai que c'est pas un sport qui fait obligatoirement rêver, mais franchement c'est un sport qui est vraiment très intéressant et ça vaut le coup de s'y intéresser.
Oui. Les valeurs de la vie, hein, mais ça on en reparlera tout à l'heure. On peut considérer que vous avez vécu une saison donc 2007 difficile
au sein de l'équipe
coach, non, malgré bon le Tour de France, ce qui s'est passé.
Non, parce que le Tour de France, la saison, c'est pas que le Tour de France.
Oui, c'est bon, c'est la vitrine.
Pour vous, mais pas pour moi. Donc, on a vécu entre le début février et la fin octobre de très belles choses. Mm-hmm. Et puis, on a aussi vécu un moment extrêmement difficile, c'est vrai. Mais je ne peux pas l'oublier. Je m'en souviendrai toute ma vie, bien entendu. Mais je me souviendrai aussi de la victoire de Duque sur le Tour d'Espagne. Je me souviendrai du formidable Paris-Nice réalisé par Sylvain Chavanel par exemple, de la victoire de Stefano Géo au Grand Prix de Cholet. Et vous savez, on a eu aussi un autre malheur, la chute de David Moncoutier autour de Romandie, où il s'est retrouvé à l'hôpital avec encore 3 mois d'arrêt. C'était la deuxième fois de suite avec une fracture du fémur. Donc vous savez, en tant que dirigeant, on a confronté comme ça à des moments difficiles et puis avec des moments de joie, voilà.
Est-ce que le Tour de France ne cache pas tout. Médiatiquement, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'on oublie justement ces victoires à travers uniquement les 3 semaines qu'on parle que de vous.
Bah, oui, je le constate en effet, mais faites l'effort de regarder ailleurs. Je sais que vous le faites, vous, Philippe, mais il n'y a pas que le Tour de France. C'est vrai qu'un souci sur le Tour de France, c'est puissance 10 000, je dirais. Le relais médiatique est extrêmement puissant. Donc, oui, il y a le cyclisme, la locomotive du cyclisme, en effet, c'est le Tour de France. Il n'y aura pas le Tour de France, très franchement, on ne serait pas coureur cycliste professionnel. Il n'y aura pas de sponsor. Mais il y a tout le reste, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, voilà, Paris-Nice, Tirreno, enfin, il y en a tellement.
Alors, cette équipe Cofidis version 2008, elle se présente comment?
Elle se présente bien. Il y a donc 19 coureurs français, 11 coureurs étrangers, avec une, chez les étrangers, une majorité de coureurs belges, coureurs hollandais aussi, nous avons un coureur colombien, un coureur espagnol, un coureur suisse aussi. Donc c'est une équipe qui alterne des coureurs qui sont des valeurs sûres chez les Français, Moncoutier, Chavanel, Florent Brard, Samuel Dumoulin, des jeunes coureurs qui vont rentrer dans l'ossature comme notamment Amael Moinard. Sébastien Minard, et puis des coureurs néo-pro comme Alexandre Blin, Julien Alfares, entre autres Romain Villa qui va faire le championnat de France de cyclo-cross. Chez les étrangers, toujours Nick Nuyens qui est notre leader pour le Tour des Flandres et le Paris-Roubaix, Rick Verbrugge qui est une valeur sûre lui aussi chez les coureurs étrangers. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas deux leaders, il n'y a pas un leader, il y a 6 ou 7 coureurs capables sur des terrains totalement différents des uns des autres, capables d'endosser des habits de leader pour une course, mais c'est pas une équipe qui a été construite autour d'un seul et même individu. On n'a pas le coureur capable de gagner le Tour de France, ni le Tour d'Italie, ni le Tour d'Espagne. On a le coureur capable de gagner le Paris-Roubaix, par contre. On a le coureur capable peut-être de gagner le Dauphiné, Paris-Nice, mais le coureur pour gagner le Tour de France, on ne l'a pas. D'ailleurs, on ne sait pas où il est aujourd'hui, s'il est français ou s'il est coureur étranger. Et je dirais que c'est un peu dangereux d'ailleurs de gagner le Tour de France en ce moment, parce que les derniers vainqueurs du Tour, ils sont plus trop coureurs derrière, donc faut faire, voilà, on est prudent.
Ça veut dire qu'il y a encore un cyclisme à deux vitesses au niveau des résultats?
Non, il n'y a pas de cyclisme à deux vitesses, il y a une minorité de coureurs qui n'ont toujours pas compris. Mmh. Et comme le dit d'ailleurs Christian Prudhomme, moins il y a de coureurs qui se dopent, plus ça se voit. Parce qu'on les attrape maintenant.
Oui,
donc à partir du moment où les scientifiques ont fait de tels progrès dans la lutte contre le dopage, donc si un coureur veut se doper, à un moment donné, il va se faire attraper. C'est évident, c'est sûr. Donc s'il se fait attraper sur le Tour de France, c'est clair, voilà, il y a un relais médiatique qui est tellement puissant qu'on ne parle que de ça. Et à partir de là, on dit, voilà, c'est le Tour de France, c'est les 200 coureurs du Tour de France, etc. Non, c'est un coureur qui, sur le Tour de France, s'est fait attraper. Bah, l'essentiel, c'est qu'on l'attrape et qu'on le fiche dehors et qu'il ne soit plus coureur cycliste.
Ouais, c'est ça.
C'est ce qui se passe depuis 4-5 ans.
La réalisation à vie, même dans tous les sports, ça serait presque l'idéal. On taperait une fois, deux fois. C'est peut-être dur, mais après, on ne recommence plus, quoi.
Moi, j'ai pas envie de dire allez voir ailleurs et allez voir ailleurs. Je dirais allez voir dans les autres sports. C'est pas ça qui va régler notre problème à nous, chez les cyclistes. Nous, on a des problèmes, on les règle. C'est vrai que quand on entend à droite, à gauche, qu'il y a des contrôles négatifs sur des grands événements sportifs, notamment récents en France, on rigole doucement, ça c'est sûr.
Très bien. Alors donc, chaque coureur va maintenant se préparer, ça c'est une saison. Vous avez une équipe où vous avez un certain type de coureur pour les courses à étapes, d'autres pour les sprints.
On est tout terrain, en effet. Capable de gagner sur tous les terrains. Je dirais là où on va pêcher, c'est sûrement en très haute montagne. Oui, on n'a pas en France, ni chez nous, à l'étranger, enfin en tout cas chez Cofidis, parmi nos coureurs étrangers, des coureurs vraiment excellents en très haute montagne. On a des bons, mais on n'a pas des coureurs vraiment excellents. On a un Colombien Duque, mais manque de peau, il est sprinteur, il n'est pas grimpeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a gagné l'étape au Tour d'Espagne cette année. Mais oui, sur tous les terrains, tout au long de la saison, on a un rôle à jouer intéressant. J'ai une population de 8-9 coureurs qui habitent sur la région de Pau, de façon naturelle. J'avoue que j'ai un peu fait exprès, entre guillemets, d'en recruter par là-bas. Il y en avait. Oui, non, mais c'est surtout parce que j'ai embauché cette année un entraîneur, alors que d'habitude les coureurs avaient l'habitude plutôt de travailler avec des entraîneurs individuels. Là, j'ai voulu qu'il y ait un entraîneur dans l'équipe. Non pas qu'il n'y en avait pas, les directeurs sportifs faisaient ce rôle-là, mais là, un entraîneur dédié qu'à ça, à l'entraînement. La condition sine qua non, c'est que cet entraîneur aille habiter sur Pau. Donc, un entraîneur met en place des plans d'entraînement, un suivi de l'entraînement avec des outils informatiques maintenant qui sont très précis, des capteurs reliés sur le vélo, sur le pédalier, etc., avec des constamment des relevés de données à travers un sport tester, et ces données pouvaient être transférées chez l'entraîneur à travers l'informatique. Mais donc c'était pas suffisant. Il faut que maintenant l'entraîneur soit sur le terrain et qu'il anime les entraînements. Tous les matins, il donne rendez-vous à cette population de coureurs là-bas et qu'il anime les entraînements. Voilà ce qui est nouveau. On n'est pas en train de parler de centre d'entraînement de l'équipe Cofidis sur Pau. Pas du tout. J'ai pas le feu vert de mon sponsor pour monter ça. Mais en tout cas, puisque j'ai des coureurs qui habitent là-bas, puisque l'entraîneur a bien voulu aller habiter là-bas, ça va un petit peu y ressembler. Le but, c'est de convaincre mon sponsor qu'il me donne les moyens de monter une structure là-bas qui soit le centre d'entraînement de l'équipe cycliste. Mmh. Parce qu'à partir de là, on rentrera vraiment dans le troisième millénaire dans une équipe, pour une équipe cycliste.
Ah, c'est une nouvelle façon de s'entraîner, quoi. Une autre façon de préparer une équipe, quoi.
Mais c'est pas, c'est une façon, oui, nouvelle, non, différente, on va dire. Mais je crois que tous les sports collectifs ont l'habitude, pour les athlètes, d'aller habiter là où ils ont signé, dans le club où ils ont signé. Les cyclistes habitent aux quatre coins de l'Europe. On fait des stages d'entraînement, on se donne rendez-vous la veille ou l'avant-veille des compétitions pour faire les compétitions.
Ils voient pas forcément beaucoup toute une année.
Moi, j'ai les 30 coureurs qu'on a réunis la semaine dernière. Il y en a parmi eux qui ont pu se revoir. Oui, tout à fait. Puisque les courses, c'est 8 ou 9 ou 7 coureurs par course. Donc, effectivement, parfois, les coureurs ne se verront pas. Donc, voilà, oui, c'est donc, le but à court terme, c'est de pouvoir réunir les coureurs signants dans une équipe, si c'est Cofidis, d'habiter dans la même ville pour pouvoir travailler ensemble. Et puis, c'est aussi une façon de lutter contre le dopage, parce que quand le coureur rentre chez lui, évidemment, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il fait entre guillemets, ou en tout cas quand on le récupère, le mal est fait. Donc, le fait d'avoir au sein d'une ville un centre d'entraînement de l'équipe permet au quotidien d'avoir un contact avec le coureur, une relation, de pouvoir aussi travailler avec un médecin de la ville, le psychologue de la ville, des kinés, mécaniciens, etc. Donc, il y a vraiment la possibilité avec un centre d'entraînement pour une équipe pro de, à travers le travail collectif, et bien de lutter contre le dopage aussi.
Alors justement, pour le grand public, un coureur durant l'intersaison, comment il se prépare? Bon, déjà, il prend quelques vacances au mois d'octobre, une fois la saison coupée. Ensuite, il fait que du vélo, il y a d'autres préparations.
Non, non.
Les méthodes ont changé.
Entre le 15 octobre et le 15 novembre, c'est la période de vacances. Mais même pendant vacances, il y a toujours un peu de gymnastique, la marche à pied, etc. Non, après, effectivement, natation, marche à pied, VTT.
On continue
VTT.
À faire d'autres sports quand même.
Oui,
c'était une ancienne
musculation.
Pratique, ça,
oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui.
On ne fait plus que du vélo parce que maintenant, il y a des saisons où on va courir au Qatar, on va aussi très loin, au soleil, donc on pourrait faire que du vélo, quoi.
Oui, mais parce qu'on est figé dans des habitudes où la saison, depuis 100 ans, c'était début février jusqu'à mi-octobre. Et fait, donc, voilà. Mais ce qui se passait, c'est que 30 coureurs, moi j'en ai que 9 qui font le Tour de France. Donc les autres, on organise un stage d'entraînement pour faciliter le travail. Mais effectivement, dans l'avenir, là, on va partir. On va partir au Qatar, en Australie, au mois de janvier. On aurait pu aller au Gabon, mais enfin, on peut pas être partout. Mais c'est vrai que dans un très proche avenir, il y aura plus de saison entre guillemets. On pourra courir un petit peu toute l'année. Mais c'est pas mal ça, parce que les coureurs qui font pas le Tour de France, eh bien, comme les autres, ils devaient prendre des vacances fin octobre, mais ils n'ont pas envie de prendre des vacances, ils n'ont pas couru au mois de juillet. Donc on va pouvoir, si on a une saison qui fait 365 jours par an, avec une équipe comme la nôtre de 30 coureurs, effectivement, faire des programmes adaptés à chacun. Un jeune coureur de 22 ans, évidemment, on va pas le mettre sur le Tour de France, donc il va prendre, entre guillemets, des vacances au mois de juillet, et ensuite, on va pouvoir le récupérer un peu plus tard pour une autre partie de la saison. Non, ça c'est très intéressant de pouvoir proposer des compétitions comme ça aux coureurs. C'est parce qu'il y a des pays émergents aussi. Tant mieux, s'il y a des pays émergents comme l'Asie, l'Australie, les États-Unis dans le vélo, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont s'intéresser à ce sport, donc des sponsors.
Il va peut-être y avoir des équipes même professionnelles cyclistes venant du Qatar un jour, qui sait.
Mais pourquoi pas, bien sûr. Tout à fait, quand on va là-bas, on a des Qataris qui roulent avec nous et qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir voir un petit peu comment ça se passe en Europe.
Alors, quelles sont les dates, quelles sont les courses que vous avez cochées plus particulièrement? Vous allez me dire toutes, mais il y a des courses qui vous tiennent plus à cœur que d'autres, Paris-Roubaix ou toutes les courses?
Bien sûr, déjà il y a les courses Coupe de France, qui ont le label Coupe de France, parce qu'on veut gagner ce classement général individuel et par équipe au niveau de la Coupe de France. Ensuite, on a coché une étape sur le Paris-Nice.
Oui.
On a coché le Tour des Flandres, le Paris-Roubaix. On a coché une étape sur le Dauphiné libéré, j'en passe, hein, on a coché évidemment le championnat de France, oui. On a coché une étape au Tour de France. Vous voyez, hein, on reste assez modeste. Voilà, si on peut gagner deux, quand je dis on a coché une, c'est le minimum. Hein, on va essayer d'en gagner deux ou trois, mais le Tour de France, c'est pas possible. Une étape au Tour d'Italie, une étape au Tour d'Espagne, voilà, on a tout un tas de compétitions qui sont pour nous des possibilités de victoire, oui.
Alors une question qu'on a dû souvent vous poser, pourquoi le cyclisme français ne gagne plus le Tour de France ou de grandes classiques? Vous défendez très souvent les coureurs, Eric, hein, parce qu'à un moment on avait dit qu'ils roulaient pas assez, ils s'entraînaient pas assez, ce qui est complètement faux, quoi.
Non, bien sûr que c'est faux, c'est parce qu'il y avait beaucoup, ouais. C'était une époque effectivement où beaucoup de coureurs. Le traumatisme de l'affaire Festina, c'est donc en France, on est d'accord, en 1942, c'est en France. Donc il y a une prise de conscience chez les Français des dangers du dopage. Et puis de la triche du dopage bien avant les autres. Donc on met en place un système pour lutter contre ça en France qui est beaucoup plus efficace que les coureurs étrangers. Donc c'est vrai que si les coureurs étrangers eux n'ayant pas bien ou pas aussi bien compris voilà la lutte ce que représentait la lutte contre le dopage continuent évidemment à avoir des pratiques dopantes, c'est clair que par rapport à quelqu'un qui se dope pas pour gagner c'est difficile. C'est plus facile de gagner, évidemment, quand on est dopé. Donc, effectivement, pendant un long moment, les coureurs français, évidemment, ne gagnaient pas. Et les étrangers disaient, oui, c'est parce qu'ils ne s'entraînent pas, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, c'est complètement faux, la preuve. Depuis que des pays comme l'Espagne, l'Italie notamment, ont pris aussi des mesures, l'Espagne seulement depuis un an. Alors que nous, depuis 10 ans, ouais, vous voyez, a pris des mesures, l'Espagne a pris des mesures contre le dopage. Donc, vous allez voir que le cyclisme français va pas revenir au niveau des autres. C'est les autres qui vont descendre au niveau du cyclisme français.
Et il y avait une charte qui avait été signée.
Oui, mais elle n'est pas respectée par tous. C'est pour ça que lors de nos diverses réunions, à travers les associations que nous avons créées, dans les équipes, il y a des gens qui ont participer à l'élaboration de chartes d'éthique et de bonne conduite et qui, lorsqu'ils rencontrent un problème, ne respectent pas ce qu'ils ont écrit et signé eux-mêmes. Mmh. Donc ça crée la polémique et c'est pourquoi, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai claqué la porte de cette association. Ça sert à rien d'écrire et de signer des documents qui ont une valeur morale plus qu'une valeur juridique, de toute façon, mais pas de les respecter.
Vous travaillez souvent ensemble entre les différents groupes sportifs français, vous réunissez souvent, vous avez des actions communes.
Bien sûr, tout à fait. Notamment, on a, puisque l'ensemble des managers généraux des équipes françaises, donc les responsables des équipes françaises, ne sont pas d'accord avec beaucoup de responsables des équipes, mais qui ne sont pas français, eh bien, nous avons claqué la porte tous à Londres au départ du Tour de France, et nous avons créé notre propre mouvement qui s'appelle le Mouvement pour un cyclisme crédible. Mmh. Voilà, tout simplement pour mettre en adéquation, je dirais, notre discours avec nos actes, considérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nos collègues étrangers ne respectent pas le code de bonne conduite et d'éthique, eh bien, on a considéré qu'on n'avait plus rien à faire avec eux. Donc, on a créé notre propre mouvement et on se gendarme nous-mêmes, en respectant les règles que nous sommes fixées. C'est-à-dire que si on a un coureur et qui est positif à un contrôle, par mesure de précaution, en attendant la contre-expertise, eh bien, on ne l'engage plus sur les courses. Mmh. Et si la contre-expertise est confirmée, en général, le coureur prend 2 ans de suspension, et nous, on s'est dit qu'après ces 2 années de suspension, si toutefois il veut revenir coureur cycliste, on s'est dit qu'on ne le prendrait pas, on l'embaucherait pas pendant 2 ans de plus. C'est-à-dire que chez nous, un coureur qui est positif, pendant 4 ans, il ne peut pas trouver d'emploi.
Donc Morini, c'est la fin de sa carrière.
Ah, Morini, de toute façon, c'est la fin de sa carrière, parce qu'il a décidé c'est la fin de sa carrière, mais par rapport aux autres, Morini, il a avoué, et il a dit les choses. Alors là, c'est déjà ça aussi, c'est déjà nouveau et c'est encourageant. Quelqu'un qui dit bah oui, j'ai vraiment déconné, je le dis, je vais vous l'expliquer. Et ça, c'est pour moi, c'est un signe de tout de même que bah, l'être humain, il est faible, il y a un moment de faiblesse, il a craqué, mais il peut toujours entre guillemets, on peut toujours. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour Christian de Moreni que pour Vino Kourov.
Ouais,
ou un autre,
voilà,
pour celui qui nie, qui dit c'est faux, alors que l'évidence est sous les yeux à travers les résultats des analyses.
Alors, on va pas revenir sur cet épisode, hein, douloureux pour vous, mais ça doit être quand même difficile de canaliser certains coureurs comme Auger ou Chavanel en disant on rentre à la maison, c'est aussi un Tour de France qui passe à côté, quoi. Pour eux.
Mais oui, mais ils comprennent qu'on fait partie d'un collectif et que si l'un d'entre nous déconne, il pénalise toute l'équipe. Toute l'équipe. Et puis, donc c'est ce qui s'est passé, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave parce que moi, mon sponsor a pu me dire on arrête, voilà, on arrête tout de suite, c'est fini. Donc là, c'était non seulement à quitter le Tour de France, mais tout le monde au chômage du jour au lendemain. Alors, c'est pas les coureurs, entre guillemets, les plus malheureux à se retrouver sans travail, puisque la majorité d'entre eux auraient retrouvé du travail, mais tous les mécaniciens, les assistants, les trois secrétaires, les directeurs sportifs, etc., eux, ils n'auraient pu retrouver du travail. Moi, j'avais un mécanicien qui a complètement craqué parce que justement, il a cru perdre son emploi alors qu'il en était aux fondations de sa maison. Je veux dire, c'est des gens qui ont des salaires modestes. C'est des gens qui sont... Leur métier, c'est mécanicien dans une équipe cycliste et il y en a de l'emploi, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà les conséquences graves des pratiques de Christian de Moreni. Mais ce qui était terrible dans cette histoire-là, c'est que Christian ne se rendait pas compte de ça.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Il s'en est rendu compte quand.
L'entourage qu'il y a autour.
Quand j'ai dit à Christian, j'ai dit, mais tu sais, demain, parce que quand il est revenu dormir à l'hôtel à minuit le soir, amené par la police. Il était en garde à vue, mais quand même pas, c'est pas un violeur ni un meurtrier. Donc la police l'a ramené dormir à l'hôtel et est venue le rechercher le lendemain pour continuer entre guillemets l'interrogatoire. Je lui ai dit, tu sais, demain on repart pas, on rentre tous à la maison. Et là il en revenait pas, quoi. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais j'ai avoué, c'est moi tout seul en cachette. Vous n'êtes responsable de rien. J'ai pris mon truc et puis c'est bon. C'est moi, c'est de ma faute. Vous n'y êtes pour rien, vous n'avez pas quitté le Tour de France. Je dis, mais si, t'as un maillot, c'est marqué Cofidis, tu fais partie d'une équipe, on travaille ensemble, donc tu déconnes, on est tous pénalisés. Mais ça, il n'en revenait pas.
Et Chavanel, Auger, ils n'ont pas eu envie de lui casser la figure.
On n'allait pas s'abaisser à ça. C'est ridicule. Surtout pas s'abaisser. Alors, je dirais, puisque vous citez Auger et Chavanel, non, pas du tout. Ils n'ont pas eu envie d'être violents. J'ai eu des problèmes de cet ordre-là aussi à régler, à gérer. Mais il n'était pas question de s'abaisser à ça. C'est ridicule.
Alors, justement, le grand public ne connaît peut-être pas le rôle d'un manager. C'est quoi le rôle d'un manager
C'est l'enfer.
Dans la vie de tous les jours, oui, c'est ça.
C'est l'enfer.
Il gère tout.
C'est passionnant. C'est tellement passionnant, c'est prenant. C'est un chef d'entreprise, quoi. Voilà. C'est 60 personnes. C'est un chef d'entreprise qui gère la partie sportive et du sport, avec les entraîneurs.
Les coureurs, ce sont les directeurs sportifs.
Non,
je les
recrute, mais évidemment, directeurs sportifs sont mes collaborateurs.
Ceux qui proposent les coureurs.
Les deux. Je suis tout le temps sur le terrain avec eux. J'ai été coureur cycliste moi-même, donc en général, un petit peu, je connais un peu les choses. Voilà. Mais non, c'est une décision. Enfin, c'est un débat commun sur un coureur, et puis si on est d'accord à l'unanimité, on y va. Maintenant, si il y a des avis qui sont différents, je prends la décision de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, non, ben c'est tout, c'est vraiment. On a des partenaires aussi, c'est la relation avec nos partenaires pour les fabricants de cycles, les accessoiristes, il y a mille choses. Non, comment l'expliquer? Je peux pas l'expliquer en deux mots, c'est la partie sportive, la partie technique, la partie secrétariat, administrative, comptabilité, relations publiques, Avec les organisateurs, les associations, effectivement.
Et vous rendez des comptes au PDG, M. Nicolas.
Oui, oui, tout à fait.
C'est lui qui rendait des comptes. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que, bon, il y a un PDG qui aime le vélo et puis qui joue le jeu jusqu'au bout.
Heureusement, hein. Oui, bien sûr. Heureusement, parce que ça lui a permis de bien comprendre ce qui nous arrivait cet été et de prendre la décision, certes, en commun, de quitter le Tour de France. Hein. C'est-à-dire par respect aux organisateurs du Tour de France, je veux dire, l'acte de Christian Morini a fait tache sur le Tour de France. Mmh. Donc les organisateurs, ils disent, mais attendez, c'est quoi ça? Donc attendez, on l'a expliqué, mais par respect pour votre travail, voilà, et votre course, on part, on quitte la course. Mmh. On n'a plus rien à faire ici, on est venu sur votre course, vous nous avez accueillis sur votre course, et voilà nous ce qu'on en fait. Donc on s'en va. Et le sponsor aurait très bien pu dire là, voilà, terminé, j'arrête, parce que l'image de mon entreprise associée à ça, hors de question. Et comme il a vu, il m'a laissé 48 heures, entre guillemets, pour voir un petit peu comment je gérais tout ça. Puis au bout de ces 48 heures, il a dit, écoute, voilà, on continue.
Et en plus, même mieux, puisqu'on va en 2009. Ouais. Voilà. Hein, donc,
c'est beau.
Ouais.
C'est bien.
Hervé Guérin, ça vous inspire un commentaire?
Moi je tire chapeau bas dans la gestion de tous ces problèmes, même moi en tant que dirigeant, c'est un peu la même chose. Moi j'ai été obligé de licencier une personne cette année aussi, bon c'est toujours pas des choses faciles et tout. Et moi je vais juste poser déjà deux questions sur ce qu'il avait dit. Vous disiez effectivement que vous aviez pas de leader. Est-ce qu'on peut pas dire quand même, si on a de bons éléments, que ça peut être la force de l'équipe, et qu'on puisse, effectivement, parce que par exemple, le Tour de France, ça dure 3 semaines. S'il y a un leader, il ne va pas être aux avant-postes en permanence. Est-ce que si on a une bonne équipe soudée, où chaque élément prend le relais successivement, on ne peut pas faire quelque chose à ce niveau-là? On peut pas réussir à gagner?
Non, parce que il faut d'abord le leader, il faut qu'il soit physiquement capable de rivaliser avec les meilleurs. Avec les 4-5 meilleurs qui ont le potentiel physique et psychologique pour gagner le Tour de France. Chez Chavanel, il n'y a pas ce potentiel-là. Chez Moncoutier non plus, dans notre équipe. Donc, si on se met au service du meilleur coureur de chez nous pour briller sur le Tour de France, le meilleur coureur de chez nous, il va faire 15e. Donc on va pas comment dirais-je bloquer 8 équipiers en les empêchant entre guillemets d'aller gagner une étape pour se mettre au service d'un individu, tout ça pour faire 15e. Donc on préfère que la stratégie c'est plutôt un pour tous, tous pour un. Étape après étape, c'est-à-dire si on a une étape de plaine avec une probabilité d'arriver au sprint groupé, si on a un sprinter, ce jour-là, effectivement, les 8 autres coureurs vont travailler pour ce sprinter. Si le lendemain, on a une étape de moyenne montagne qui est plutôt favorable à des baroudeurs, c'est-à-dire que des coureurs qui vont attaquer dès le départ vont pouvoir s'échapper, créer suffisamment de distance entre eux et le peloton, et puis suffisamment fort pour résister au retour du peloton dans le final pour éventuellement aller gagner, ça c'est sûr que donc ça va être le leader d'hier sera l'équipier du lendemain. C'est notre stratégie, bien sûr.
Et on peut pas arriver effectivement non.
Non, on peut pas gagner le tour comme
ouais,
ça.
Ouais,
ah
ouais.
Non. Parce qu'il faut que ce soit le même coureur qui soit bon partout.
Ouais. Au moins par équipe, alors effectivement.
Ah bah ouais. Par équipe peut-être, ouais, mais ouais. Bon, le maillot jaune.
Ça serait quand même une belle récompense, oui.
Oui, non mais bien sûr, effectivement, le classement général par équipe est un classement qui intéresse toutes les équipes, mais il se fait presque naturellement, quoi. Je veux dire, une équipe peut pas prendre le départ de tour avec seulement cette stratégie-là. Il y a deux stratégies majeures. Je dirais, ramener un maillot de leader, maillot jaune pour gagner le tour, maillot vert pour classement par points, le maillot à poids pour la montagne, et gagner une étape. Ouais. Le reste, on va dire, c'est du bonus qui vient presque naturellement. Voilà. Greg Lehmann a gagné le Tour de France en 1990. Ouais. Je faisais partie de l'équipe de Greg. Mm-hmm. Nous étions 9. Donc, on avait le coureur capable de gagner le Tour de France au départ. Il venait déjà de le gagner 2 fois. Donc, il voulait le gagner une 3e fois. Donc, on a travaillé pour lui.
Voilà, c'est ça.
Du début à la fin. Moi, j'ai jamais, aucun de des équipiers que j'étais n'a cherché à gagner une étape. Jamais. Mm-hmm. C'est-à-dire, s'il y avait une échappée qui se créait, dont l'un d'entre les coureurs échappés étaient dangereux pour Greg LeMond, eh ben, on roulait derrière pour rattraper cet échappé. Donc on se sacrifiait totalement pour que tous les coureurs dangereux, tous les adversaires de Greg puissent pas distancer Greg. Voilà. Si toutefois il était piégé à travers une bordure ou une échappée. Donc voilà notre rôle. Et en travaillant comme ça pour gagner le tour avec Greg LeMond, eh ben, on a gagné le classement par équipe. Et c'est naturellement, sans le faire exprès.
Oui, oui, automatiquement. Ouais. Et la deuxième question, c'est comment, en fin de compte, vous recrutez vos jeunes, vos personnes ?
Eh bien, on a deux clubs amateurs partenaires, l'AVC Aix-en-Provence et le club de Saint-Amand-Montrond, donc avec qui on a des liens particuliers, privilégiés plutôt. Et donc déjà, donc on est toutes les semaines informés des résultats et du comportement des coureurs de ce club-là. Et puis ensuite, partout sur le territoire français, on a des espions. Et puis on a la presse spécialisée aussi qui nous permet d'avoir des informations sur les jeunes coureurs.
Et il y a même des coureurs qui vous envoient des CV.
Ah oui, bien sûr.
Contrairement à ce qu'on
voit. On a des coureurs qui envoient des CV, tout simplement.
Ouais, ouais. Patrick, vous, l'homme du Red 28, qui aimez le vélo aussi, bon, vous suivez les courses comme ça, comme beaucoup.
Je rêve.
Oui,
je rêve parce que, à la fois avec Eric Boyer, moi, ça me rappelle que ma famille est dans le vélo, on a une culture du vélo, et moi, mon sport, c'est le vélo. Même si j'ai développé beaucoup plus de compétitions dans le domaine de la course à pied et du raid, et que là, le Red 28, c'est un raid en progression pédestre. Je rêve du vélo parce que moi j'étais un jeune sportif qui aimait le vélo parce que mon père m'a fait aimer le vélo, toute ma famille m'a fait aimer le vélo et j'avais un rêve, c'est de rentrer dans une équipe cycliste comme amateur. Je rêvais du Tour de France, mais j'étais barré à un moment donné parce que c'était dans les années 60, c'était où on fait du sport, où on fait des études. Donc j'ai pas fait de sport. Mais j'ai toujours aimé ça, j'en ai toujours fait. Donc avec Eric Boyer, je rêve. Et avec notre ami ici présent, Montagnard, je rêve aussi.
Ah bah c'est très bien.
Parce que moi je n'ai pas pu faire, pour des raisons professionnelles aussi, une carrière de sportif. J'aurais peut-être pas atteint des très hauts niveaux, mais escalader la haute montagne, faire des traversées en bateau, faire des grands raids à vélo, faire des records de traversées, ça c'était mon truc. L'endurance, ça c'était quelque chose. Et quand je vois Hervé, je me dis... Lui, comme tous ces grands sportifs, les gens qui font le Tour de France, j'ai un ami que vous connaissez tous, qui habite la région, c'est Alain Belouis, qui est un ami d'enfance, qui a terminé le dernier du Tour de France. Moi, il m'a emmené. Il m'a emmené. Parce que il m'a transporté tout le long de ses courses. Et les coureurs cyclistes du Tour de France m'emmènent. Et toi, Hervé, quand tu fais des expéditions, tu m'emmènes. Et tous les grands raidaires qui font ces exploits nous emmènent, nous, les sportifs du dimanche, les sportifs amateurs. Vous avez une importance. Parce que des fois on dit oh, c'est l'élite, tout ça c'est loin, mais c'est médiatisé et vous peut-être que vous voyez pas l'impact que vous avez sur les sportifs du dimanche. Et quand on fait nous en tant qu'organisateurs des courses comme le Red 28, eh bien on fait participer nos amis coureurs du dimanche comme nous à un mini exploit qu'ils ne feront peut-être pas en montagne ni en bateau. Donc ça a une très grande valeur. Ça me permet donc de remercier Philippe de mettre en valeur le dimanche matin sous la couette tout cela. Ah ben Philippe est un très grand sportif.
Voilà, effectivement. Eric, justement, le sport c'est la valeur de la vie, le vélo c'est la valeur de la vie. À tous les parents qui nous écoutent ce matin, il faut leur dire ça. Hein, pour un jeune qui ferait du vélo, c'est un sport mais merveilleux.
Ah oui, non, mais bien entendu que c'est un sport extraordinaire.
École d'humilité.
D'ailleurs, je crois qu'on s'en rend compte dans les villes en ce moment, même si. Mais je suis persuadé que ça va nous aider, ça va aider ce sport, le fait on va vers des problèmes d'environnement. Et qu'il faut faire attention à notre environnement. Donc le développement des vélos dans les villes vont apporter, je le crois, beaucoup, beaucoup aux vélos qui se pratiquent en termes de sport. Alors, peut-être que l'élite en profitera un jour, j'en sais rien, mais je suis sûr que ça permettra à des gens de redécouvrir le vélo et d'avoir envie les week-ends,
le Vélib,
d'en faire autrement à la campagne. On est quand même à 35 kilomètres de Paris, c'est quand même pas beaucoup, dans une région qui justement, par les problèmes de sécurité tout à l'heure, nous permet ici de faire du vélo quand même en toute sécurité le week-end, et même en semaine.
À quel âge un jeune doit commencer ? Il y aura un jeune qui viendra vous voir, qui dira voilà, je veux faire du vélo, vous lui conseillez
la compétition pas avant 16 ans, maintenant il peut faire des balades à vélo, à VTT, à partir de de 14 ans, du BMX à partir de 12 ans, des choses comme ça. Mais la compétition, à mon avis, pas avant 16 ans.
Et puis, une notion qui vous est chère, la notion de plaisir.
Ben bien sûr.
C'est plaisir. Non mais c'est vrai que même pro après il faut pas être un automate, il faut garder cette notion de plaisir.
C'est justement déjà un sport tellement difficile que si quand on est adolescent en même temps c'est normal quand on a une passion de rêver de toucher à ce qui se fait de mieux dans sa passion. Donc si on est cycliste, on veut faire le Tour de France, on rêve de le gagner, etc. Mais à 14, 16 ans, 18 ans, 20 ans et même quand on est professionnel, ça doit toujours être la notion de plaisir qui doit l'emporter sur tout le reste, parce que sinon on va à l'échec, c'est évident.
Ouais, non, c'est sûr, hein, donc c'est fatal. Alors maintenant, la suite des événements, c'est quoi dans les prochaines semaines pour vous?
Un stage d'entraînement qui démarre demain à Montpellier pour 8 jours. Ensuite, la période de vacances, un petit peu pour tout le monde. Alors, les coureurs sont pas en vacances.
Ah non, mais parce que les coureurs, c'est fini, les vacances.
Le jour de Noël et le jour de l'an, ils ont droit quand même aux deux derniers écarts.
Mais le 26 décembre, vous roulez?
Bon, moi, je roulais, j'ai même roulé le 25. C'est comme ça. On est une vingtaine de jours en stage. On a une équipe qui part en Australie le 8 janvier pour 3 semaines. Une équipe qui partira au Qatar fin janvier. Les autres restent en France, en stage d'entraînement à Saint-Égulfe, dans le sud. Et puis les premières compétitions début février sur Marseille, en Ardèche aussi, derrière le Tour méditerranéen. Enfin voilà,
c'est reparti. Alors justement, vous parliez du rôle de manager. Vous êtes constamment présent. Hein. Vous êtes un manager qui comptait bien être présent sur les courses parce que il y a des managers on les voit moins ou pas trop, mais vous,
au bureau, sur le terrain. Au bureau, au moins 3 jours par semaine à Lille, et ensuite sur les week-ends, sur les compétitions, sur le terrain. Tout à fait, je peux pas en être autrement pour moi. Je peux pas diriger une équipe derrière un ordinateur ou au bureau ou à la maison, non.
Avec trois équipes parfois engagées un même week-end, sur 3 sites différents.
Non, mais bien sûr, je vais pas sur les 3 sites en même temps, j'ai les directeurs sportifs qui ont en charge la responsabilité du groupe présent sur les courses, mais c'est une fois que la course est finie, effectivement, les directeurs sportifs m'appellent pour me raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. Et puis c'est vrai que Eurosport, notamment, diffuse beaucoup de courses, tellement de courses, que ça me permet quand même de voir ce qui se passe devant la télé, quand je peux pas aller sur le terrain.
Aucun regret depuis être justement de l'autre côté de la barrière à l'équipe télé, hein, les arrivées du cours cycliste, vous étiez à côté du journaliste.
Ça a été très enrichissant. Oui, c'était une très belle aventure. Eurosport avant aussi, à la limite c'est la radio qui me plaisait le mieux. C'est une façon, on sait que les gens voient rien, alors faut aller plus loin dans la description. La télé, c'est pas, enfin
ouais, c'est l'image quoi qui
c'est moins intéressant, très franchement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, non, mais évidemment, tout ça, des bagages supplémentaires à chaque fois. Permettre, après une carrière de course cycliste, de voir comment fonctionnaient les médias. J'ai travaillé avec des organisateurs aussi, de voir comment difficulté d'organiser une course. C'est extrêmement compliqué d'organiser une compétition. Je sais pas, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas vous, je vais le démontrer. Donc, effectivement, tous ces petits métiers m'ont permis, quand Cofidis m'a demandé si je voulais bien diriger leur équipe, et bien, effectivement, d'avoir une valise bien remplie d'expérience comme ça, et depuis 2 ans et demi que je suis chez Cofidis, j'en apprends encore, j'en apprends tous les jours, mais ça m'a bien servi, oui, bien sûr.
La reconversion pour un cycliste, c'est plus dur que par le passé, c'est plus facile?
C'est plus facile maintenant parce que déjà ils sont pratiquement tous bacheliers quand ils passent professionnel. Ils ont tous, avant de passer pro, réussi à avoir un bac, voire un bac technique.
Oui, contrairement aux idées reçues.
Oui, vraiment, tous. Donc, mais j'en ai même un qui peut s'arrêter demain et faire instituteur. Amael Moinard, il est instite. Donc non, on en a beaucoup qui ont un métier, un vrai métier. La difficulté, c'est que si on fait une carrière longue de 12, 13, 14, 15 ans, c'est de bon, une fois qu'on arrête, entre, allez, on a 35 ans, 36 ans, eh ben de on peut pas pratiquer le métier qu'on a appris 15 ans plus tôt, parce que
c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème de la reconversion.
Ça, et puis le rythme, c'est-à-dire que c'est un rythme où, bon voilà, on, après une compétition, on rentre à la maison, repos, entraînement, puis hop, avion, bagages, hôtel, du monde autour de soi, des médias, des spectateurs, des plein de choses. Donc on est dans une spirale comme ça qui est intense, qui est faite de va-et-vient, c'est qui est passionnante, c'est du mouvement.
On s'en lasse peut-être au bout d'un moment, ça.
Oui, on peut s'en lasser.
12-15 ans, on a peut-être...
Enfin, moi, ça a été mon cas, oui. C'est vrai que quand je, 6 mois après, quelque part, j'avais envie d'y retourner. Non pas comme coureur cycliste, pas eu envie d'y retourner, mais d'avoir une activité dans ce milieu-là, tout à fait. Mais pas tous, hein. J'ai plein de copains qui ont tourné la page, mais du jour au lendemain, qui sont évidemment contents de ce qu'ils ont fait, jamais aigris, évidemment, mais qui sont passés à autre chose. Et ça, c'est une force. Moi, j'ai pas eu cette force-là. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, j'y suis revenu. Mais la reconversion, elle est difficile, plus sur le plan psychologique. C'est-à-dire d'un seul coup, se retrouver à la maison, plus bouger, plus sortir, le téléphone qui sonne moins, il y a un sentiment d'abandon, alors qu'on n'est pas abandonné. Mais bon, voilà, les gens travaillent. Bon, alors il y a
la dynamique qui est pas la même.
Oui, voilà, il y a une rythme de vie qui est différent. Donc le problème qu'ont les sportifs de haut niveau, à mon avis, dans leur reconversion, c'est qu'ils attendent qu'on leur dise quoi faire.
Oui, mais est-ce qu'on
parce que pendant non c'est oui mais parce que effectivement mais oui mais parce que pendant 10-15 ans on les a assistés.
Ah oui, hein, ça c'est un problème.
On les a totalement assistés. Ouais, ouais. Donc ils savent quoi faire. Et les dirigeants les mettent dans les techniquement comment faire, voilà. Et là, d'un seul coup, ils n'en savent plus, ils savent pas quoi faire, mais personne n'est là pour leur dire. Mm-hmm. Donc il faut pas attendre, voilà. Donc c'est le seul conseil que j'ai à donner pour un sportif qui arrête, c'est qu'il ait un projet de reconversion. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de projet de reconversion, là c'est très très difficile. Il faut tout de suite avoir envie de faire quelque chose, que ce soit lié au sport qu'on vient de pratiquer ou autre chose, mais tout de suite se lever le matin en disant c'est ça que je veux faire, parce que ça aide à avancer. Si on sait pas quoi faire, ça, même si on a de l'argent, il y a un confort matériel par les temps qui courent, c'est déjà ça. Mais s'il y a pas ça en plus, effectivement, donc alors là d'autant plus qu'il faut tout de suite savoir quoi faire, sinon c'est très difficile.
Alors aujourd'hui il y a les nombreuses télés et puis donc les nombreuses médias. Ça offre des postes de consultants, comme pour tous les sportifs, ça aide, ça.
Oui, mais c'est pareil, c'est limité, je veux dire.
Il y a autre chose.
Oui, non, mais c'est limité, quoi. Voilà, il y a de l'emploi dans le secteur des médias. Il y en a 3-4 tous les par an, c'est tout. Pas plus.
Ça a été le problème de Laurent Brochard qui essaie de retrouver une équipe. Vous voulez pas le prendre à Cofidis ?
Non, on voulait pas le prendre, non pas parce que ses qualités, ni son âge. Mm-hmm. Non, c'est une politique qui fait qu'il rentrait pas dans notre stratégie et du coup on le prend pas.
Ouais, 39 ans, c'est.
C'est pas l'âge, c'est pas l'âge. C'est les ambitions de Laurent Brochard. On n'aurait pas pu chez nous l'accueillir et lui permettre de réaliser ses ambitions. Donc voilà.
Vous parlez des anciens, ça arrive souvent de vous revoir avec ceux de votre génération, ceux qui ont été donc dans l'équipe Système U ou chez Z.
Tout à fait, régulièrement on se voit, on se téléphone parce que beaucoup ont une activité dans le lieu de près ou de loin au cyclisme, et puis ceux qui n'ont pas d'activité liée au cyclisme on se téléphone, et puis quand le Tour de France passe dans leur région, évidemment ils viennent nous voir, ils passent un moment avec nous, dîner avec nous, déjeuner, voilà, ça leur remémore de bons souvenirs.
Ouais. Bon, quand vous avez commencé le vélo, il y en a qui vous ont marqué plus que d'autres, des grands champions, ou même des coureurs simplement. Hein,
déjà, le plus grand, Eddy Merckx.
Ouais, bien sûr. Non, mais
il a marqué plusieurs générations, et je crois qu'il marquera encore d'autres générations. Après Bernard Hinault, évidemment, avec qui j'ai eu la chance de courir pendant 2 ans. Puis
c'était
ensuite...
un vrai papa hein, pour vous. Hein, quand vous...
Oui,
arrivé,
c'était...
Vous avez des jeunes coureurs, c'était un vrai...
Vous savez que c'est quand même le dernier Français qui a gagné le Tour de France. Hein. C'est en 1985, donc ça fait un moment. Oui, non, c'est quelqu'un qui avait un caractère vraiment de champion, et on n'a pas retrouvé un caractère comme le sien depuis depuis lui, quoi. Et je pense que le prochain coureur cycliste qui aura les de bonnes jambes, mais surtout le caractère de Bernard Hinault, sera celui qui gagnera le Tour de France, bien sûr.
Bien sûr. Et puis ensuite Lemon, Fignon, vous avez été
Fignon, tout à fait. C'était des gens que j'ai évidemment côtoyé de près dans la même équipe. Pareil, c'est des gens qui sont un peu différents du commun des mortels.
C'est ce que j'allais dire. Les champions de sport de haut niveau sont des gens un peu différents quand même, hein, fatalement. Pour le grand public, il faut leur dire qu'ils n'ont pas...
Ils sont... c'est psychologiquement, quoi. Ils ont des ressources psychologiques un tout petit peu différentes de celles des autres. Mais moi, j'en suis sûr, c'est comme celui qui monte à 8000 mètres d'altitude, quoi. C'est un petit peu, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que, hop, on va un peu plus haut, un peu plus vite. Mais en même temps, tout en restant, j'ai le sentiment que ce genre d'individu n'a pas l'impression, lui, d'être différent. À la limite, moi, je me suis toujours dit, mais même par rapport au niveau qui était le mien, il y a des gens qui me disent, oui, mais quand même, arriver à ce truc-là, je dis, oui, mais bon, il suffit de travailler, de s'entraîner. Non, je ne m'en rends pas compte. Moi, j'ai envie de dire aux gens, mais vous savez, je ne vois pas la différence entre vous et moi. Je ne vois pas. Je ne la vois pas. Je n'ai jamais trouvé. Mais bon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça s'arrête à un moment donné, mais il y a de temps en temps, voilà, quelqu'un qui va un petit peu plus haut qu'un autre, puis un petit peu plus haut. Mais moi, j'ai jamais trouvé de différence, quoi. Je me dis que tout le monde peut y arriver.
Ouais. Et dans les grands champions actuels, dans la génération actuelle, il y a justement ces coureurs un peu hors normes.
Non.
Non.
Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Non. Non, je... Ouais.
Un Contador.
Si, il y a mon Coutier.
Ouais.
Mon Coutier est hors norme.
D'accord. Il est hors norme.
Il est hors norme. Coutier est hors norme, ça se voit pas, mais pour moi, il est hors norme. Je crois qu'il s'en rend pas compte du tout, alors lui, vraiment. Vous savez, quand il est tombé au mois de mai, je vais tout de suite à l'hôpital le voir. Enfin, c'était deux jours après, le temps qu'il soit rapatrié à Toulouse, qu'il est tombé en Suisse. Et il me dit, tu sais, Eric, ah, cette année, ça m'embête quand même. Je dis, ah bon, ben pourquoi? Ça fait 12 ans qu'il est professionnel. Il dit, bah, parce que cette année, je m'étais entraîné comme un pro.
Oh là là.
Voilà, 12 ans après. Ça faisait 12 ans qu'il venait de faire du vélo, il s'était pas entraîné comme un pro. Alors, bon, voilà. Donc, quelqu'un qui venait de se révéler à lui-même. Et je pense que David, justement, a le potentiel pour gagner le Tour de France, physique, mais pas le potentiel psychologique.
Ah, c'est ça le problème. Parce que souvent, il courait en queue de peloton, on lui reprochait.
Oui, il peut y avoir un déclic quand même, non?
À 33 ans, ça va être un peu... S'il a le déclic maintenant, c'est peut-être du coup le physique va moins suivre, parce qu'il a 33 ans. Ouais. Mm-hmm. Et puis il a un côté où il est maladroit sur le vélo, il le sait, injure, mais il a ce côté où il n'est pas... C'est d'ailleurs pour ça que malheureusement, il a chuté et qu'il s'est fait mal. Oui, il y a un côté adroit qu'il n'a pas, et ça, c'est malheureusement... C'est des réflexes, des choses qu'on... C'est quand on est tout petit qu'on... C'est pour ça que j'encourage les jeunes plutôt qui veulent faire du vélo de faire d'abord du BMX. Voilà, pour être à droit. Nous, à l'époque, on avait le cyclocross
qui
nous permettait d'être à droit ou la piste.
Ça, maintenant, non,
ça revient un peu.
Ça revient
un petit peu.
Dernier petit mot, vous faites un peu de vélo encore malgré toutes vos
J'en ai fait beaucoup cette année.
Parce qu'on a tendance à ne pas remonter sur un vélo, qu'on en a fait beaucoup justement. Mais on n'a pas envie de.
Cette année, j'avais bien repris là, entre janvier et fin juin. Tour de France, j'avais pas le temps. Puis après, j'ai pas eu envie.
Eric, qu'est-ce que vous avez à dire ce matin aux jeunes parents qui nous écoutent, à tous les jeunes qui voudraient, à travers cette émission, se lancer dans le vélo?
Les très jeunes, commencer par du vélo plaisir, jeu, donc le BMX, faire du VTT, vraiment de s'amuser sur la bicyclette. Et puis ensuite de découvrir des écoles du cyclisme, parce qu'il y en a beaucoup. Et de commencer à pratiquer la compétition, je vous dis, à 16 ans, c'est très bien. Et de tout de suite rencontrer un médecin du sport qui va régulièrement suivre le jeune et avoir dès le début un discours je dirais, éducatif pour que le jeune ne soit pas tenté d'aller vers le dopage. Parce que de toute façon, c'est pas parce qu'on choisit le cycliste qu'on est tenté d'aller vers le dopage. C'est à partir du moment où on fait du sport, qu'on, n'importe qui fait du sport et qui veut en faire de la compétition et voire du sport de haut niveau, qui peut devenir un métier aussi, est tenté d'aller vers le dopage. Donc quel que soit le sport, c'est l'encadrement des dirigeants du club qu'on a choisi et le suivi par un médecin compétent qui évitera à un jeune d'être attiré vers par le dopage.
Très bien. 15 secondes, vous êtes optimiste pour la suite?
Oui,
pour,
très pour optimiste. Très. On va encore en prendre pas mal.
Pendant quelques temps, mais après on
Je pense, mais on va s'en sortir.